Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Bilal Tarabeh, vous êtes journaliste à France 24, vous avez vécu aux États-Unis, au Liban, mais aussi à Madagascar, et vous êtes spécialiste de politique internationale, en particulier du Liban. Bonjour.
Bonjour.
Phoenix, vous êtes romancier et spécialiste du renseignement. Bonjour.
Bonjour Laura.
Pour ce 14e épisode, j'aimerais parler de la Russie et de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, la Russie aurait eu près de 600 000 blessés et tués. Pourtant, la machine de guerre russe tourne à plein régime, mais on parle de 30 000 nouvelles recrues chaque mois, une estimation un peu supérieure au chiffre mensuel de la désertion, des tués et des blessés. Et sur le front ukrainien, comme dans la région de Koursk, les troupes progressent, gagnant quelques centaines de mètres chaque jour. Bilal, comment tout cela va-t-il se terminer ?
Déjà, pour que les gens visualisent un petit peu la situation, la Russie occupe un territoire qui est plus grand que des pays comme le Portugal, comme la Jordanie ou comme la Bulgarie en Ukraine. C'est à peu près 10% du territoire ukrainien. On est à 107 310 km et des brouettes sur le territoire ukrainien. Nécessairement, pour reprendre un territoire pareil, s'il n'y a pas un effort international. Pourquoi je dis international ? Parce que la différence en termes de nombre et de force entre l'Ukraine et la Russie, c'est du simple à minimum le quintuple en faveur des Russes, et ça ne s'arrête pas. Eh bien, il n'y aura pas de reprise des territoires conquis par la Russie. Pour ce qui va rester de l'Ukraine, c'est la grande question. Et les discussions portent en réalité plutôt là-dessus.
Phoenix, combien de temps les Ukrainiens pourront-ils tenir ?
Bon, c'est évidemment assez difficile à prévoir parce que depuis le début, on a du mal à lire la situation. Hein. Si on se souvient bien, au moment de l'invasion, 24 février 2022, tout le monde était convaincu, même la CIA, qui pourtant a fait un boulot extraordinaire sur cette guerre-là, puisqu'elle avait à peu près tout prévu, sauf la capacité de résistance des Ukrainiens. Ensuite, on s'est dit que la Russie était un géant au pied d'argile. On a complètement oublié l'histoire, à savoir que les guerres duraient toujours très longtemps avec les Russes, et qu'en général, ils les perdaient au début. Donc voilà, comme quoi on n'apprend pas grand-chose. Et on s'est convaincu, nous en Occident, que finalement, les Ukrainiens allaient l'emporter assez rapidement et que tout serait terminé fin 2023. Combien ils vont pouvoir tenir ? C'est sûr que, comme disait Bilal, ça devient de plus en plus dur. Le rapport de force, il est au minimum, déjà le rapport de force en termes de population, hein, donc un peu plus de 40 millions par rapport à 147-148 millions d'habitants. On a évidemment beaucoup plus de population corvéable à merci en Russie. Donc l'Ukraine est un pays en guerre, mais ça n'est pas du tout une dictature, alors que la Russie est une vraie dictature et est également en guerre. Les Ukrainiens, avec l'offensive de Koursk, bon, ils ont évidemment, c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique, puisqu'ils ont montré aux Russes, faites attention, parce que nous aussi, on peut pénétrer votre territoire. Et d'ailleurs, ils n'ont toujours pas réussi à s'en débarrasser de la petite poche de Koursk, où les unités, d'ailleurs, parmi les meilleures unités de l'armée ukrainienne, avaient fait leur incursion il y a quelques mois. Les Ukrainiens, ils n'enrôlent pas de force les troupes. Hein, dans beaucoup de provinces reculées, périphériques de la Russie, on propose des bonnes sommes aux soldats. Puis il ne faut pas oublier que dans des régions de Sibérie ou certaines régions d'Asie centrale, si ma mémoire est bonne, c'est 80 000 euros, l'équivalent de 80 000 euros, si le conscrit meurt pour la famille. Et je ne dis pas évidemment pas que les familles vendent leurs enfants à l'armée russe et se réjouissent de leur mort, c'est absolument pas ce que je dis. Mais en revanche, oui, 80 000 euros, ça a un poids dans certaines régions de Russie qui sont extrêmement pauvres. Hein. Donc on oublie souvent à quel point il y a un décalage économique entre les grandes villes et les régions rurales de Russie. Donc tout ça, ça donne évidemment un désavantage au départ sur le nombre d'hommes entre Ukraine et Russie. Ensuite, vous avez un désavantage sur le point de vue des matériels, puisque les Russes disposent encore des stocks de l'Union soviétique. On était dans les millions et les millions d'obus au démarrage de la guerre, et ils en ont balancé un bon paquet sur l'Ukraine au départ. Ils ont dû ralentir le rythme, justement, mais maintenant, depuis déjà plus d'un an, ils sont en train en fait de prendre les chars soviétiques et de les reformater, de les remettre en marche. Et voilà, donc on n'est pas, même si on parle de l'économie d'armement, l'économie militaire, l'économie de guerre russe qui fonctionne après le régime, c'est tout à fait vrai. La production de tanks est aux alentours de 60 par mois, ce qui veut dire qu'en gros, en un trimestre, on a autant de tanks disponibles théoriquement dans l'armée russe que l'ensemble du stock disponible dans l'armée française, le stock qui peut rouler. Parce qu'il y en a aussi pas mal, mais qui dans l'armée française, à qui manque des pièces détachées. Donc en termes de matériel, ils sont évidemment encore une grande supériorité sur les Ukrainiens. Donc ça veut dire que la tactique, c'est la même depuis un bon moment maintenant, hein, que ce soit à l'époque de Sourovikin, où ils bombardaient absolument tout. Maintenant, c'est ils bombardent toujours, bon, avec moins, parce qu'ils économisent un peu leurs obus et leurs missiles balistiques ou leurs missiles de croisière. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des vagues humaines. Hein. Donc c'est ce qu'avait commencé Prigogine avant qu'il meure, donc au moment où justement il se plaignait des tactiques de l'armée et que les siennes étaient meilleures et tout ça, il envoyait en gros des Wagneriens, si je puis dire, se faire tuer. Bon, eux, ils étaient plutôt bien formés, si ce n'est que les Wagneriens recrutés récemment par Prigogine venaient des prisons, donc ils avaient probablement l'animosité et l'agressivité, mais pas forcément la formation militaire, donc ils mourraient aussi de toute façon. Donc on a tout ça. Les vagues humaines, ça marche pas, mais ça leur permet quand même, comme vous le disiez, de grignoter du terrain, et progressivement, étape par étape. Après, comme toujours, on en revient à que va faire Zelensky, hein. Donc, en gros, il n'y a que deux options. Il peut soit négocier, mais auquel cas, ça crée un précédent terrible. Donc, si j'étais lui, je ne ferais pas ça. Soit il continue. Évidemment, le nombre de morts en Ukraine dû à la guerre est beaucoup plus réduit chaque mois que celui des Russes, puisqu'ils sont sur la défensive en ce moment, les Ukrainiens. Donc, l'autre option qu'a Zelensky, c'est l'argent. Donc, à un moment, je pensais réellement que les Américains ne pourraient pas libérer une nouvelle aide financière, et puis ça a été fait en grande partie grâce évidemment à l'administration démocrate, mais au speaker, donc le président de l'Assemblée, la Chambre des représentants, donc Johnson, qui a finalement été convaincu qu'il fallait libérer ça. Donc ça a été fait contre l'opposition de la majorité des républicains, mais par contre quasiment tous les démocrates étaient pour. Donc l'aide militaire est arrivée, et évidemment désormais il ne va pas en avoir plus, Zelensky, donc sa seule solution c'est des armes finalement avec de la technologie occidentale, qui clairement ont fait leur preuve, hein, ça il n'y a absolument aucun doute. Ça c'est la grande force militaire des occidentaux pour le moment, c'est la précision de leurs armes et aussi de leur tactique. Hein. Le problème il est bien sûr évidemment au nombre de militaires et au stock de matériel en termes d'armement, c'est ça le problème par rapport aux Russes. Et l'autre chose dont on parle beaucoup moins, parce que Zelensky, il est logique, c'est le développement d'une industrie d'armement locale ukrainienne, hein, qui avait un peu disparu, puisque tout était resté, une grande partie était restée en Russie, et toutes ces vieilles usines d'armement soviétiques avaient été en fait un peu décommissionnées, ou vendues à des mafieux et des choses comme ça pour en faire des usines de chaussures ou autres. Et donc là, il y a, par exemple, aujourd'hui, l'Ukraine est l'un des plus grands producteurs de drones au monde en quelques années. Il y a une vraie ingéniosité, hein. Bon, on a quand même une population ultra bien formée, et notamment ultra bien formée en technologie. Ça fait très longtemps qu'il y a plein d'outsourcing à Kiev, bien avant la guerre, et on en voit le résultat. Donc après, pour revenir toujours sur la même histoire, si on a une administration démocrate avec une majorité, l'aide militaire américaine se poursuivra. Si c'est Trump, elle ne se poursuivra pas. Est-ce que les Européens prendront le relais? On ne sait pas. Mais de toute façon, Zelensky, il commence à produire une industrie d'armement locale. Donc on va voir. Je pense que ça sera à la table de négociation avec Poutine que le jour où il est complètement pris à la gorge et désespéré. Et pour le moment, ça n'est pas le cas.
Il y a quelques jours, les services secrets sud-coréens ont révélé que des membres des forces spéciales de Corée du Nord étaient en route vers le front ukrainien afin d'y combattre auprès des Russes. Messieurs, quel œil portez-vous sur ce développement ?
Alors déjà, si on voudrait être un petit peu taquin, on pourrait se dire que les considérations de co-belligérance n'encombrent pas l'esprit de Kim Jong-un et de la Corée du Nord. Ça, c'est quand même une chose à souligner. Oui, ça n'est pas étonnant. Chaque pays allié de la Russie fournit ce qu'il peut comme il le peut. Donc l'Iran, les drones, ça c'est connu et on l'a dit depuis longtemps. Selon les Américains, également des missiles balistiques. Depuis, je crois que c'est sorti il y a à la fin de l'été ou à la rentrée, ce que Téhéran dément. Et donc, les Nord-Coréens, il y a un programme de collaboration de toute façon militaire avec Vladimir Poutine qui a été officialisé il y a quelques années, mais assez récemment, et qu'ils envoient des combattants. Oui, pourquoi pas. Ça, c'est pas quelque chose qui paraîtrait surprenant.
Phoenix.
Ouais, Bilal a tout à fait raison. C'est le NIS, en fait, donc les services secrets sud-coréens, qui sont de plus en plus actifs, parce que bon, au moins, eux, ils sont focalisés. C'est leur menace. Ils n'ont pas des ambitions géopolitiques mondiales, ils ont une menace, et c'est la Corée du Nord. Donc, ils les repèrent bien, et grâce à des images satellites, d'ailleurs, des images satellites de Maxar, qui est en fait une entité privée, qui est très utile en OSINT et en repérage satellitaire, puisqu'ils étaient très utilisés, notamment par les Américains et la CIA, pour justement déterminer et confirmer que les Russes s'apprêtaient bien à envahir l'Ukraine, donc entre la fin 2021 et le début 2022. Donc Maxar et Airbus, ils ont montré, les photos sont disponibles, tout un ensemble de photos avec des recoupements qui expliquent que non seulement il y a des navires russes, c'était une photo d'un cargo qui s'appelle le Angara, qui était en fait au dock du port de Ranjin en Corée du Nord, qui était en train de remplir en gros ses soutes d'armes. On estime que c'est à peu près 13 000 containers, ça fait beaucoup, 13 000 containers d'armes qui ont été déjà exportés de la Corée du Nord vers la Russie. Et il y avait d'autres photos, je crois que c'était sur la base russe de Ussurisk, où on voyait des militaires nord-coréens qui attendaient justement d'être embarqués pour aller vers le front. Donc on estime, ils estiment, les services secrets sud-coréens, que c'est à peu près 1500 militaires nord-coréens qui sont au bord d'arriver sur la zone de conflit, mais qu'il y en a 12 000 qui sont en train de se préparer. Ça commence à faire pas mal. Après, quand on regarde le nombre de soldats russes impliqués dans la guerre, c'est pas beaucoup, 12 000 au total. Après, on peut se demander plusieurs choses. D'abord, quel est l'intérêt des Nord-Coréens ? Bon, d'abord, c'est pas un problème pour Kim Jong-un, puisque ça fait 20 ans qu'il vend quasiment des ouvriers nord-coréens un peu partout sur tous les chantiers du monde. Donc, alors, imaginez des soldats comme si ça allait être gêné. Et en plus, comme il n'y a aucun doute qu'on a une intensification des conflits sur pas mal de points au monde, hein, avec particulièrement Proche-Orient, Russie, Russie contre Europe et pour le moment Ukraine, et évidemment on parle beaucoup de Taïwan et Chine, mais il ne faut surtout pas oublier Corée du Sud et Corée du Nord. Ça, c'est, je suis assez stupéfait de jamais entendre ça, notamment, mais si demain il y avait une invasion ou une tentative d'invasion de la Chine sur Taïwan, mais je n'ai aucun doute que la Corée du Nord se lancerait sur la Corée du Sud. Mais ça me semble tellement évident, quoi. Puisque l'excuse, ce serait la réponse américaine qui, a priori, ne laisserait pas tomber Taïwan. Et enfin, donc, et pour les Russes, ils disposent évidemment de... C'est un test, hein, pour eux. Encore une fois, 12 000, ce n'est pas grand-chose. Ils ne vont pas changer le sort de la guerre. Mais c'est un test. Et puis, si le test marche, ils vont en prendre plus. Il y a 1,5 million d'hommes en armes en Corée du Nord. Donc, Kim Jong-un, il va pas lui en donner 500 000, je pense. Mais peut-être qu'il pourra lui en donner 100 000. Pour le moment, ils ne font rien, à part s'entraîner. Donc, pourquoi pas ? Et enfin, ce qui par contre devrait poser un problème aux chancelleries occidentales, qui ont toujours peur de fâcher Poutine. Or, plus on est un diplomate qui vit près de la frontière russe, plus on le sait. Et il ne faut jamais avoir peur de fâcher Poutine. Il ne comprend que la force. Donc, où est la ligne rouge ? Est-ce qu'on va accepter que la Corée du Nord commence à envoyer tout un ensemble de soldats sur le front ? Là, on revient sur les scénarios de la guerre d'Espagne, qui, évidemment, la guerre d'Espagne, c'est l'annonce de la Seconde Guerre mondiale.
Depuis le début de l'année 2024, les cris d'alarme au sein des états-majors et des services de renseignement européens se sont multipliés. Que ce soit les Suédois, les Estoniens, les Allemands, à chaque fois, on entend que l'OTAN doit s'attendre à une attaque russe dans les 3 à 5 ans à venir. Alors, on crie au loup afin de préparer la population à une augmentation des budgets de la défense ? Ou est-ce que Poutine osera-t-il défier l'OTAN ? Bilal ?
Honnêtement, on est à l'abri de rien. Vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais dit « mais non, ça n'arrivera jamais, voilà, il ne faut jamais dire jamais ». Maintenant, Poutine n'est pas fou, il n'est pas irrationnel. Moi, je ne vois pas de logique qui ferait qu'il attaquerait l'OTAN en tant que telle. Maintenant, encore une fois, on n'est jamais à l'abri. C'est ce que vient de dire Phoenix, c'est-à-dire d'un enchaînement de conflits et de circonstances qui finiraient par entraîner des pays de l'OTAN face à la Russie. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là, dans le sens d'une déflagration générale, pas tant d'une attaque frontale de Vladimir Poutine contre l'OTAN. Je pense qu'il n'en a réellement pas besoin, et d'ailleurs, l'Ukraine le montre assez bien.
Et Phoenix ?
C'est encore une fois une question, enfin, qui amène une réponse avec beaucoup, beaucoup de facettes. Hein. Je suis assez d'accord avec Bilal là-dessus. En revanche, pour commencer, je dirais que on peut très bien avoir, si on regarde le spectre des scénarios, un scénario où l'Europe se réjouisse parce que Trump est élu, mais il y a un accord de paix où, en gros, il force la main des Ukrainiens contre quelque chose. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Je suis même pas sûr que les Ukrainiens accepteraient. Je pense pas qu'ils accepteraient. Mais imaginons ça, l'Europe, au lieu de réarmer, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, on a rarement vu, je crois que dans l'histoire, on a très très rarement vu une situation avec des pays aussi riches, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des problèmes, aussi riches, avec une telle différence technologique en termes d'armement, qui consacrent aussi peu à leur défense et à leur militaire contre d'autres pays qui ont des hommes, ont beaucoup d'armement et aussi pas mal de technologie, les Chinois, même si elle n'est pas prouvée. Et on a rarement vu ça. Donc on pourrait très bien imaginer que les Européens repartent sur la même logique, c'est-à-dire on baisse les dépenses, parce qu'on a tellement de problèmes, on a des retraites à payer, etc. Et que là, oui, Poutine, évidemment, s'il en a l'opportunité, il n'hésitera pas. Alors, il va pas, non, les chars russes vont pas aller à Berlin, parce que de toute façon, ils n'y arriveraient pas. Il n'y a pas assez de garages sur l'autoroute pour qu'ils arrivent à faire la distance. En revanche, une incursion dans les pays baltes, une attaque de Transnistrie sur la Moldavie, une invasion d'un petit bout de la Norvège arctique pour récupérer une côte qui gèle pas ou qui gèle moins pendant l'année pour aider les sous-marins russes, tout ça est tellement possible. En revanche, autre élément, ou plutôt pour aller vers l'autre direction du spectre des possibles, si les Européens continuent à réarmer et qu'ils ne font pas n'importe quoi, je pense clairement qu'une attaque physique, donc militaire, donc cinétique, comme on dit, de la Russie contre l'OTAN ne semble pas possible dans un futur proche. Après, pourquoi on parle beaucoup de ça? C'est évidemment, c'est le boulot des services de renseignement et de l'état-major militaire de dire, attendez les gars, messieurs les politiques de nos brillantes démocraties, si vous voulez qu'on se défende, il faut aussi nous en donner les moyens.
Oui, non, là-dessus, c'est vraiment côté occidental, on est sur une ligne de crête, mais je voulais simplement rappeler que si l'Occident n'ose pas envoyer des hommes en Ukraine, on va le dire ça comme ça, parce que Vladimir Poutine a l'arme nucléaire et que ça. Il faut savoir qu'en face, c'est le cas aussi. Hein. Il faut sortir de l'idée que la Russie, l'armée russe, etc., sont fous et ou incompétents, enfin, jusqu'à un certain degré. Mais ce qui me renforce depuis un petit bout de temps aussi dans la conviction qu'il n'en a pas besoin, c'est qu'on voit que moins l'Occident arrive à tenir ses positions et plus dans le monde. Dans l'ancien monde soviétique et post-soviétique, finalement, la Russie n'a pas besoin de plus que des ingérences pour retourner les pays en la faveur. On est en train de réaliser, et la couverture du sommet des BRICS, d'ailleurs, est extrêmement parlante sur le sujet. On n'a jamais autant parlé d'un sommet des BRICS que celui qui a lieu au moment où on enregistre, encore une fois, cet épisode, parce que finalement, Poutine, non seulement n'est pas aussi affaibli que ce qu'on veut bien le croire, mais que... Oui, il n'est pas, il n'a pas besoin d'en arriver à certaines extrémités, sauf peut-être à certaines marges que tu évoquais à l'instant.
Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier aussi, tu parles du fait que Poutine n'est pas aussi isolé qu'on le dit, mais bon, ça fait depuis le début de la guerre, en fait, qu'on peut voir qu'il n'est pas aussi isolé qu'on le dit. Après, sur les BRICS, il y a des pays qui s'inscrivent vraiment dans l'axe anti-occidental, hein, donc, c'est-à-dire la Chine, puis la Chine avec la Russie, bon, Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. La Chine ne considère pas du tout la Russie comme un partenaire égal. Je pense que même Poutine le sait. Après, il y a des pays qui sont évidemment moins puissants que la Chine, comme l'Iran ou la Corée du Nord. Et tout ce monde-là, en fait, est dans une logique impérialiste. Hein. Et même la vision de Poutine, elle est simple. On dit toujours qu'il veut reconstruire l'Union soviétique. Non, il ne veut pas reconstruire l'Union soviétique. L'Union soviétique n'a fait que suivre la logique de l'Empire russe depuis le XVIe siècle. Et en gros, il veut un retour à la Russie du XIXe siècle avec sa zone d'influence, une grande puissance qui fait à peu près ce qu'elle veut. Mais pour revenir donc sur l'OTAN, oui, la seule chose à faire, c'est évidemment de montrer aux Russes qu'on est sérieux et de s'inscrire dans une ligne qui d'ailleurs a été beaucoup poussée par Trump d'une façon qui me semble pas forcément la meilleure. Mais c'est vrai que la réaugmentation des dépenses de l'OTAN commence à l'époque de Trump, mais évidemment, ce qui explique sa réaugmentation après 30 ans de baisse, c'est évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puisque on parlait à l'époque du minimum de 2% du produit national brut. Faut pas oublier que c'est maintenant 3/4 ou 80% des pays de l'OTAN. Je sais plus s'il y en a 27, je crois qu'il y en a 24 sur 27 qui sont maintenant au-dessus des 2% ou qui flirtent avec les 2%. Et puis il y a aussi une autre règle qu'il faut pas oublier. Si vous regardez l'ensemble des pays de l'OTAN, c'est super simple. Plus on est proche de la frontière russe, plus l'augmentation du budget de la défense est importante. Pour le moment, le top, à part la Grèce qui a toujours été dans une position un peu spéciale à cause de la Turquie, donc ça c'est un peu un cas d'espèce, mais sinon vous regardez, la Pologne est passée d'un peu plus de 2% à 4% en deux gouvernements. Ça a commencé avec un gouvernement de droite dure, voire d'extrême droite, qui a relancé le truc, parce que c'était eux qui étaient au pouvoir au moment de l'opération militaire spéciale, mais c'est un gouvernement centriste de Donald Tusk qui a poursuivi le truc et a même encore augmenté les dépenses. Donc on approche des 4%, ce qui est supérieur au pourcentage pour les États-Unis. Ensuite, vous avez l'Estonie, voilà, il y a une démocratie extrêmement moderne, où ils sont à plus de 3,5%, donc on peut très bien être libéral, vivre en démocratie et décider d'investir énormément en défense. Ça, c'est aussi un tabou qu'il faut vraiment casser, notamment en France et notamment vis-à-vis de la gauche française.
Phoenix, on a la menace d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, au point que vous évoquiez il y a 2 ans une nouvelle guerre froide. Mais ce dont on parle moins, ce sont les opérations clandestines russes en Europe. Votre point de vue ?
Le point de vue, il est simple. D'abord, on a maintenant la preuve que aujourd'hui, malgré toute la propagande de Vladimir Poutine depuis à peu près les années 2010, donc depuis plus de 10 ans, la technologie militaire russe, c'est quand même en partie un rideau de fumée. Donc c'est avant tout du matériel, des gros obus qui tombent, des tanks qui tombent en panne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire très mal. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la différence entre le matériel américain ou même le matériel de certains pays européens comme les Allemands, les Français, les Britanniques ou les Italiens d'ailleurs, qui ont une industrie d'armement, on en parle rarement, mais qui est finalement assez sophistiquée aussi. C'est simplement qu'ils ne dépensent pas dessus, donc évidemment on ne les voit pas. Ils les vendent, c'est tout. Les Russes ont bien compris qu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas mener 2 guerres conventionnelles. Ils ne peuvent pas en mener 2 en même temps, ça c'est clair. Hein. Ils ont 2/3, minimum 2/3 de leurs ressources. Le FSB, quasiment toutes ses ressources sont focalisées sur l'Ukraine. Donc c'est l'ensemble de l'appareil de renseignement militaire, politique, économique russe. Tout est concentré uniquement sur l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que le PNB russe, c'est 10% seulement du PNB de l'OTAN. Donc on oublie toujours que c'est un pays qui, fondamentalement, n'est pas un pays riche. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, sans rentrer dans les détails de ce qu'est la doctrine Gerasimov ou des choses comme ça, du coup, en fait, même si on ne fait que parler de la guerre conventionnelle ou cinétique, mais ça c'est le style Poutine, c'est-à-dire je monte quelque chose de façon à faire autre chose que je montre moins. La réalité, même si elle implique beaucoup moins d'hommes et moins de moyens, c'est on a un haro sur le baudet en termes de guerre hybride. Donc en fait, les instructions, qui sont notamment menées en grande partie par le GRU, en gros l'organisation de sabotage, d'attentats, d'assassinats un peu partout dans le monde de la Fédération de Russie, les opérations clandestines ont absolument explosé, surtout en Europe, depuis 2 ans. Et c'est partout. On n'en parle finalement pas assez. Par exemple, il y avait le projet d'assassiner le PDG d'une des plus grandes entreprises d'armement allemande qui s'appelle Rheinmetall. Le PDG s'appelle Armin Papperger, je crois. Et ça a été déjoué par le FBI. Donc, heureusement que le renseignement américain était là. Et donc, il y a eu évidemment, on vit en France, il y a eu l'histoire des étoiles de David. Bon, là, on est sur des opérations qui, en fait, coûtent 2 carambars et un chewing-gum, on est d'accord. Mais ils ont tout compris, les Russes, là-dessus. Toute la presse en parle. Du coup, on est sur tous les niveaux d'intensité. On est sur un type qui préparait sa petite bombe dans son hôtel, dans le nord de Paris, pour faire sauter un mégastore ou je sais plus ce que c'était, un magasin de bricolage ou quoi que ce soit. Il y a un centre commercial où il y a eu un incendie à Varsovie. Il y en a absolument partout. Donc on se dit, mais tout ça, c'est pas très concerté, c'est pas logique. Mais parce qu'on raisonne pas comme les Russes. Les Russes, c'est très simple, ils ont décidé, semons avec tant d'argent et tant d'hommes le chaos autant qu'on peut en Europe. Le but, c'est d'exploiter les fractures qu'il y a surtout en Europe. C'est beaucoup plus simple parce que bon, on peut rentrer en Europe comme on veut. Il n'y a rien de plus simple. Alors, par contre, tout n'est pas si simple parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que parmi tous les échecs liés à l'opération militaire spéciale du 24 février 2022, ça aussi, on n'en parle pas du tout. Il y a eu un truc fondamental qui s'est passé pour le renseignement russe, c'est qu'il y a des centaines d'espions qui ont été expulsés en Europe. Et ça a complètement déstabilisé en fait leur réseau. Et il y a eu toute une reformation, une recomposition au sein du GRU, notamment des différentes unités. Donc il y a une unité qui s'appelle, on entend assez souvent parler, le centre 161, mais surtout on la connaît comme l'unité 2955, qui est en fait chargée de tous les assassinats, toutes les opérations et tout ça. Ils ont créé une nouvelle unité qui s'appelle l'unité 54-654, qui est supposée recomposer leur réseau de clandestins. Ils ont décidé que maintenant ils allaient engager moins de militaires dans l'unité 2955, parce qu'ils sont tellement terrorisés à cause des capacités d'espionnage électronique, de surveillance électronique des Occidentaux, pas seulement des Américains, parce que les Britanniques sont assez bons aussi, mais aussi tout ce qui est cette nouvelle science enfin au sein des services de renseignement qui est l'OSINT ou le ROSO, donc le renseignement de sources ouvertes, où finalement il y a tellement, ça tout a changé depuis 20 ans parce que maintenant on vit dans un monde complètement numérique. Et donc si vous êtes espion, déjà quand on n'est pas espion on laisse des traces absolument partout, et si vous êtes espion, ben, le problème c'est que vous laissez quand même quelques traces. Et quelques traces, quand vous avez des vraies analyses, des vrais experts qui sont vraiment formés, qui ont les outils logiciels et les outils informatiques pour savoir quoi faire avec, et ben vous finissez par les repérer. Donc à cause de ça, ils prennent maintenant ce qu'on appelle des clean skins, des gens qui n'ont rien à voir avec l'appareil militaire, et ils essayent en fait de les développer. Donc en fait, ils font, pour ceux qui connaissent la série The Americans, ils font en fait des illegals, mais pas simplement quand c'est des clandestins infiltrés au sein de sociétés libres occidentales, mais également pour travailler au GRU parmi le 2950, dans l'unité 2955, parce que quand le type débarque à l'aéroport de Londres ou de Paris, ils veulent pas qu'immédiatement il se fasse repérer. Donc voilà, donc c'est la gabegie. Il y a même un historien russe, je lisais récemment, un observateur d'origine russe mais américain, qui disait récemment, c'est la première fois depuis que j'observe l'Empire russe et l'Union soviétique où je dirais que les opérations clandestines ne sont pas au service, ne sont plus au service de la politique étrangère russe. C'est les opérations clandestines sont devenues la politique étrangère russe. Ce que je trouve intéressant, c'est que clairement, on a une stratégie du chaos.
Si la paix était finalement négociée entre la Russie et l'Ukraine, à quoi ressemblerait-elle ?
C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux paramètres clés pour une paix entre les deux pays. c'est un, qu'est-ce qui va se passer des territoires qui ont été conquis par la Russie et qui d'ailleurs font du point de vue russe désormais partie de la Russie depuis les référendums contestés d'annexion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est inéluctable, selon la dernière expression de Mark Rutte, qui est le nouveau secrétaire général de l'OTAN depuis le début de l'année, enfin depuis le mois de septembre. C'est vraiment, ça va dépendre de ces deux points-là. C'est ces deux points-là qui sont en discussion aujourd'hui. Oui, et l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais ça, de toute façon, même si c'est enclenché, ça prendra des années, voire des décennies. Donc, si vous voulez, c'est ces deux points-là qui vont absolument conditionner la paix entre les deux pays. La Russie considère qu'une Ukraine qui fait partie de l'OTAN est une menace à sa sécurité. L'Ukraine, qui vient d'être envahie de facto, ne veut plus être un État neutre ou un État tampon, ou en tout cas renoncer à une quelconque forme d'alliance et de protection, et c'est pour ça qu'elle veut rejoindre l'OTAN, puisqu'il faut quand même préciser que l'OTAN n'intègre pas des pays de son propre chef, hein. Ce sont des pays qui demandent à adhérer à l'OTAN. Donc ça, c'est aussi un élément pour équilibrer, disons, le narratif russe. On se rappelle que Vladimir Poutine, quand il envahit l'Ukraine, c'était pas pour annexer toute l'Ukraine à la Russie, c'était pour faire tomber le gouvernement Zelensky. Alors peut-être annexer quelques oblasts, j'en sais rien, j'étais pas dans sa tête à l'époque, mais c'était surtout pour faire tomber Zelensky et remettre un gouvernement pro-russe, voilà, qui suivrait ses instructions et qui ne le menacerait pas. Donc, finalement, le cœur du problème est ce qui va faire le cœur des négociations et de la forme que prendra cette paix entre les deux pays, ça va vraiment être ces deux questions-là. Les territoires d'un côté conquis par la Russie, mais vraiment surtout le futur statut de l'Ukraine, et en particulier vis-à-vis de l'OTAN.